la CMD Communication Médias divers, qui est le nom de ce balado, qui est produit par le Cégep de Terrebonne dans le cadre du cours Critique des médias. Je m'appelle Julie Corbeil et je suis enseignante dans le contexte du cours Critique des médias. Et ici, on s'interroge sur des enjeux médiatiques d'aujourd'hui. Dans les prochaines minutes, on a le plaisir de recevoir deux invités qui vont nous présenter des productions médiatiques autour d'un enjeu sur lequel il y a long à dire, la cancel culture ou la culture du remplacement ou de remplacement?
De la culture de l'annulation.
De l'annulation.
De l'annulation. Ouais, de l'annulation. Ouais. Ah oui, merci de me corriger. Donc, j'ai en ma compagnie, vous avez pu les entendre, Zach et Sean, qui sont étudiants en communication et qui ont regardé la question dans les dernières semaines. Je ne sais pas qui veut commencer à présenter cet enjeu médiatique.
Ben, écoutez, moi, ça ne me dérange pas, je peux me lancer. Si on m'accepte bien, dans le fond, le cancel culture, c'est un phénomène qu'on a pu remarquer dans les dernières années. Le terme a apparu là, dans la fin des années 2010, puis a vraiment fait son essor, je dirais, aux environs de la COVID, durant la pandémie, où tout le monde était enfermé, puis j'ai l'impression qu'il n'y avait rien à faire aussi. Donc, ça s'est téléporté sur les médias, puis sur les réseaux sociaux. Dans le fond, la cancel culture... Elle se bat contre les injustices sociales, si je peux dire ça comme ça. Notamment pour ceux qui devraient populairement faire face à des questions questionnables ou même inacceptables, mais qui ne sont pas réprimandés pour tels actes par la justice normale, celle qu'on la connaît, dans le fond. Donc, le phénomène s'est tourné vers les médias pour dénoncer ceux qui contreviennent... à la normalité, ou si je pourrais dire...
ceux qui font des actes ou qui des inconduites souvent...
Exact, des inconduites de toutes sortes, que ce soit sexuel, n'importe quoi. Ouais. Puis, dans le fond, on veut les réprimander à travers les réseaux sociaux en carrément les annulant, les cancellant. Ils perdent toute réputation. Dans le fond, c'est un petit peu une atteinte à la réputation si on veut le voir un peu plus en profondeur, mais... En surface, c'est ça. C'est pas mal de canceller du monde qui, selon la pensée populaire, devrait être réprimandé pour leurs actes. Puis, je dirais que ça tourne alentour de ça, là.
Et de ton côté, qu'est-ce que tu as ajouté, Zach?
De mon côté, Sean, il a pas mal bien résumé le phénomène de la cancel culture. Mais il faut ajouter aussi que ça a été commencé par l'opinion publique. Avant d'avoir le verdict, supposons, du jury ou de la cour, l'opinion publique a déjà comme défini des lois ou des normes à suivre sur la cancel culture, aussi des limites par rapport à ce qu'on devrait dire ou ce qu'on devrait pas dire ou ce qu'on devrait faire ou pas. Et c'est arrivé, cet événement-là, avec Éric Salvaire. On sait qu'Éric Salvaire avait été accusé pour... une agression sexuelle, harcèlement criminel et séquestration.
A-t-il été accusé?
Je pense qu'il avait été accusé pour ça.
Il a été reconnu coupable?
Non, il n'a pas été reconnu coupable. Okay. Il a été acquitté en 2020.
Ouais.
Mais à cause qu'il s'était fait comme boycotter par l'opinion publique, il n'avait pas pu faire un retour... à la télévision.
Exact. Puis si je peux renforcer là-dessus, on l'a blanchi. Mais à travers la cancel culture, on n'efface pas ce qui s'est passé. Tu sais, c'est qu'on se souvient de ce qui s'est passé, puis on dit « Non, t'as pas le droit de revenir. » Fait que c'est un petit peu, si je peux dire ça, un tribunal, pas de juge. Oh. Où le juge sont des milliers et des milliers de personnes à travers leur écran. En fait, je dis à travers leur écran parce que souvent, le phénomène est présent sur les écrans, mais j'ai l'impression que ça se passe beaucoup plus dans les médias puis sur Internet. Puis en ce sens-là, tu sais, si je peux nommer des mouvements qui font référence à la cancel culture, il y a le hashtag MeToo. Ouais. Et puis, il y a aussi, si je peux rentrer là-dedans, aussi le Black Lives Matter, où les débats, les manifestations ont fait leur essor aux États-Unis là, après le meurtre de George Floyd par rapport à un policier. Donc, tu sais, il y a beaucoup de mouvements comme ça. Puis... C'est comme ça que ça se passe souvent sur les médias sociaux, puis on n'oublie pas, c'est qu'on n'oublie pas.
Oui, c'est difficile d'effacer ces événements-là, finalement, ou du moins ces commentaires-là. Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter?
Oui, grâce aux médias sociaux, il est devenu plus accessible aussi de donner son opinion et puis de partager, mettons, des événements des événements d'inconduite ou d'actes néfastes pour une personne via les réseaux sociaux, comme je l'ai mentionné. Puis ça fait en sorte que beaucoup plus de dénonciations aussi, puis que parfois on peut se mêler avec ce qui est vrai ou ce qui est faux. Parce que je sais aussi qu'il y a plusieurs dénonciations qui ont été fausses. Puis ça peut complètement gâcher la carrière de certaines célébrités ou de certaines personnes. Puis je trouve ça vraiment de valeur qu'à cause de ça, il y a des personnalités qui étaient super connues, qui avaient une bonne influence dans le monde de la monde des superstars,
Là, on est déjà en train de rentrer dans ton opinion, mais c'est pas grave. Mais je pense qu'on pourrait commencer par les présentations des productions médiatiques que vous avez analysées, qui sont sur le sujet. Je sais pas qui veut commencer à prendre la parole autour de ça.
Je peux y aller.
T'écoute, Zach.
Moi, j'avais ma première production médiatique, c'était un segment de radio à la radio 98.5. qui parlait en fait des sensibilités différentes entre Radio-Canada et CBC, la chaîne française et la chaîne anglaise de Radio-Canada, sur la diversité, l'inclusion et certains mots qu'on ne peut ou qu'on ne peut pas prononcer. Les deux animateurs qui discutaient ce sujet, c'était, on le connaît tous, c'est Patrick Lagacé et MC Gilles. MC Gilles un peu plus... Je l'aime bien, c'est MC Gilles, là, un peu plus humoristique. Donc, ça fait un très beau duo. Mais pour revenir au sujet, le mot en haine était comme l'angle un peu de la production, parce que il y a beaucoup de personnes, beaucoup de journalistes qui ont été sanctionnés parce qu'ils avaient dit le mot en haine en citant plusieurs œuvres. Je vais pas les citer parce que...
Oui, pour les raisons qu'on connaît.
Pour des raisons professionnelles.
Pour ne pas se faire annuler.
Exactement, je ne veux pas me faire cancel. Et puis, ça avait vraiment fait la une des journaux aussi. L'événement avec... c'était pendant le débat politique, je pense. Pierre comment il s'appelle?
Pierre Bruno, est-ce que
non,
c'est...
Non, Pierre Plamondon, là.
Ah, Pierre, oui, Paul Saint-Pierre Plamondon.
Oui, Paul Saint-Pierre. Il avait forcé un peu Gabriel Nadeau-Dubois à dire, à citer l'œuvre de Pierre Vallière. Et puis ça a été un gros sujet de discussion dans la production médiatique. Et puis j'ai trouvé ça pertinent que les deux chroniqueurs puissent donner un peu leur opinion personnelle sur la cancel culture. Parce qu'on sait que Patrick Lagacé, vu qu'il est chroniqueur, parfois peut être un peu penché vers une opinion assez...
Subjectif.
Ouais, un peu subjectif. Oh, la subjectivité. Mais dans ce segment de radio-là, je trouve qu'il y a vraiment eu une bonne opinion assez neutre, en disant que quand on cite, supposons, une œuvre avec... le mot en haine dans le titre, c'est pas nécessairement pour insulter vraiment la communauté noire. C'est juste pour parler du titre d'un livre, là, ça a vraiment pas but d'insulter quelqu'un. Il avait expliqué que si, supposons, tu t'amusais à le dire 5-6 fois pendant mettons, une discussion ou une émission de télévision, là ça devient comme un plaisir puis comme une insulte. Mais si tu fais juste le nommer une fois pour présenter cette œuvre-là, moi, je verrais pas pourquoi il y aurait
genre préjudice.
Un préjudice, ouais. Exactement.
Je sais pas si ça avait terminé avec cette première production où je te laisse aller. Hein?
vous voulez parler... c'est pour ça des points forts, des points faibles.
On n'est pas rendu là. Est-ce que tu as présenté tes deux? On dirait que je suis comme...
Non, j'ai juste présenté celle-là.
J'ai eu peur, j'étais comme peut-être, j'ai parti vraiment. Non,
98.5.
Oui, donc la deuxième.
Oui, la deuxième, c'était sur RAD. C'est plus le côté... moi, je trouve que je l'appelle le petit côté jeune de Radio-Canada, parce qu'ils font vraiment des très bonnes productions qui attire l'œil, honnêtement, visuellement, esthétiquement, très, très bien présenté, très bien conçu. Et je trouve qu'avec la cancel culture, ils ont ajouté beaucoup de références, beaucoup d'événements qui se sont produits durant ces dernières années, que ce soit au...
Oui, je suis désolée, c'est moi, c'est ma faute.
Que ce soit au Canada, aux États-Unis, avec plusieurs artistes aussi, Safia Nolin, Marie-Pierre Morin, on a aussi Kanye West. Il y a eu tellement d'événements ces derniers temps que je pourrais vraiment pas toutes les nommer, honnêtement. Et puis, je trouve qu'ils ont bien présenté, en fait, ce qu'était la cancel culture, en présentant globalement, ben, comme la définition, puis d'où c'est parti, avec l'ampleur avec qui a pris de l'ampleur avec le Black Lives Matter, comme Sean l'a mentionné, avec MeToo. Et puis aussi, je trouve que la diversité des intervenants est vraiment importante dans le contexte de la production, parce que on a affaire à plusieurs intervenants qui ont avec plusieurs bagages.
Bagages comme différents, ouais, ici, des bagages, de plusieurs milieux.
Issus de plusieurs milieux différents qui donnent vraiment une opinion, qui viennent imposer comme une diversité d'opinion, pardon, sur le sujet. T'sais, on a des avocats, des professeurs, des personnes qui travaillent dans le mouvement MeToo, des journalistes, autrices. Donc, je trouve que ça permet aux auditeurs de vraiment trouver c'est quoi vraiment leur opinion vis-à-vis de ce sujet-là. Et j'ai vraiment trouvé que c'était un élément clé dans toute la production médiatique. Et puis, ça fait le tour, en fait, de mes deux productions.
Et toi, Sean?
De mon côté, j'ai débuté par regarder un segment d'émission de l'émission Dans les médias, animé par Marie-Louise Arsenault. Et puis... Je trouvais que c'était bien pour un segment d'émission, mais c'était pas complet. Il manquait de jus, je pense, au segment. Leur angle de présentation, ça, c'était plutôt vers l'effet de la cancel culture dans les médias. C'est-à-dire que on montre l'effet en parlant beaucoup. C'est-à-dire que si on passe plus de temps à en parler, on peut aggraver certaines situations. On dirait que ça crée de l'engouement, ça crée du... comment on dit ça? Du,
ouais,
un certain ça... intérêt. Ça suscite un intérêt qui est parfois à l'effet revers qui va donner juste du négatif au final. Et puis, on a présenté plusieurs statistiques. On présente des statistiques, notamment sur Eureka, depuis 2021, comment il y a plus d'articles qui sont faits par rapport à la culture de l'annulation. On a aussi présenté deux personnalités publiques au Québec qui ont fait des livres à ce sujet-là, notamment celui de Guy Nantel, qu'on connaît grâce à ses vox pop souvent ces temps-ci, là. Et puis on a celui de Judith Lucier, qui elle aussi a présenté un livre sur la cancel culture. À part de ça, je trouve qu'il manque d'intervenants, il manque de sujets un peu, il manque de critères là, pour bel et bien montrer le sujet en long et en large, mais je peux comprendre que leur but n'était pas de montrer le sujet en long et en large, mais je pense qu'il manquait quelques éléments là, pour faire le tour, puis bien montrer l'événement en toute objectivité, si je peux me permettre. Puis c'est ce qui fait le tour, je dirais, de ma première production médiatique. Pour la deuxième production médiatique, c'est un segment d'épisode aussi, mais cette fois-ci d'une émission française qui s'appelle Complément d'enquête. Complément d'enquête, c'est un petit peu ce que j'ai compris, ça ressemble un peu du JE ici au Québec, mais de 70 à 75 minutes de long environ. Puis ici, notre partie d'émission dure à peu près un 23 minutes. Donc on passe un 23 minutes à parler strictement de la culture de l'annulation, du cancel culture. On présente plusieurs intervenants. On a une diversité, comme Zachary l'a mentionné tantôt dans ses productions. Ici, il y a une diversité d'intervenants. On parle ici de victimes du cancel culture, de gens qui sont pour la cancel culture. On a des journalistes, des directeurs, des chercheurs. On a du monde de toutes sortes de domaines qui viennent apporter leur grain de sel pour bel et bien qu'on comprenne en long et en large le sujet. Puis ça, c'est contrairement à l'autre où c'était plutôt en surface. On montre plusieurs situations aussi où la culture de l'annulation a été effective, notamment c'est une auteure, une autrice.
On peut dire les deux.
Donc, c'est une auteure qui avait fait un livre sur une culture qui n'était pas la sienne. Je pense, en l'occurrence, c'était une famille, je pense, de race noire, si je peux dire ça comme ça. Je pourrais pas dire quelle nationalité exactement. Puis, puisque elle s'est appropriée, dans un certain sens, l'histoire ou la culture, puis elle l'a présentée personnellement dans son œuvre, mais on lui a reproché de s'approprier une autre culture, puis qu'elle avait pas le droit de faire ça. Ce que je trouve qui est un petit peu... C'est un petit peu, pas régressiste, mais si on veut être ouvert, je pense que c'est important de laisser tout le monde parler de tout. Puis en plus, c'est pas, l'histoire n'était pas péjorative envers la culture à laquelle elle parlait. Donc il y avait des exemples comme ça. C'est plusieurs exemples banals, mais qu'au final, on en fait tout un plat. Puis que c'est des personnes comme ça, une autrice qui n'a pas de mauvaises intentions, puis elle se fait complètement canceller puis ruiner sa réputation pour des choses comme ça. On a aussi présenté la situation d'un professeur à l'université de Californie, Gordon Klein. Gordon Klein s'est fait reprocher, ou en fait complètement annulé, après avoir avancé des propos qui, je dirais, allaient à l'encontre de l'idée principale du Black Lives Matter. C'était à l'époque du Black Lives Matter, quand il y avait les manifestations dans les rues, où on se souvient, beaucoup de grabuges ont été faits, des personnes ont presque perdu leur marché, leur commerce, à cause du grabuge. Puis le professeur avait avancé à ses étudiants de faire attention, puis de penser aux gens qui ont leur commerce aux alentours, puis souvent, en l'occurrence, c'était des personnes blanches, ces affaires-là, mais une étudiante, enfin, un groupe d'étudiants lui reprochait de prioriser l'intérêt des Blancs avant celui des Noirs, où que le problème était axé alentour du racisme systémique et du racisme des policiers. Puis on lui reprochait mettre de l'avant l'intérêt des Blancs, où ce n'était pas le moment. Puis on lui a reproché ça, puis à cause de ça, il y a eu des courriels, des menaces de toutes sortes. Puis, enfin, on présente un peu son portrait, on fait le tour dans sa vie, comment ça a impacté sa vie. Donc, pour ce côté-là, je pense que dans cette production médiatique-là, on va plus de l'avant pour montrer vraiment comment la culture de l'annulation a un impact dans la vie des gens, dans ceux qui la subissent et ceux qui la font. On y va vraiment en long et en large et en précision. Donc, je pense que cette production-là était vraiment plus représentative là, de la situation.
J'ai l'impression que vous avez un peu parlé on a senti déjà vos préférences, ouais. Mais passons quand même à ce segment où je vous demande un peu de déterminer qu'est-ce qui vous a marqué le plus, quelle est la production entre les deux qui vous a le plus attiré, que vous avez le plus aimé, puis pourquoi finalement?
Ben moi, comme Sean, c'est la deuxième production médiatique, celle de Rad, qui m'a le plus attiré parce qu'on vit dans un monde en 2023 où est-ce que les médias traditionnels sont de plus en plus en déclin. On parle ici de la radio, mon autre production médiatique. Ça fait en sorte que nous savons tous que la radio attire beaucoup moins, moins grande influence, non pas une moins grande influence, mais attire un moins grand public. Ouais, est-ce que ça se dit?
Oui.
Un public moins important qu'une vidéo de rad publiée sur YouTube qui a plusieurs centaines de mille de vues. De mille de vues. Donc, c'est ça, c'est vraiment leur... comment je pourrais dire ça? C'est vraiment leur importance sur le public. Aussi, la quantité de personnes qui peuvent influencer ou atteindre avec leur production. Et puis, Là, est-ce que je vais juste dire, supposons, ma préférée ou oui, je parle des points forts, points faibles entre les deux, comparaison?
Oui, un peu ça, points forts, points faibles entre les deux qui font en sorte que finalement, il y en a une des deux qui t'a le plus accroché finalement. Mais tu as commencé à le dire avec le public, mais sinon dans la façon de présenter le sujet.
Oui, c'est sûr que la façon de présenter le sujet dans la production de RAD, c'est beaucoup plus complet avec la diversité d'intervenants aussi. Ça aide à choisir sa propre opinion sur la cancel culture. Par contre, ça peut mélanger un peu si on a plusieurs intervenants qui n'ont pas la même opinion sur le sujet, puis ça crée, comme j'ai dit, une divergence d'opinion, ce qui n'est pas le cas de l'émission de radio parce que pendant la majorité du segment, c'est Patrick Lagacé qui donne son propre opinion sur... le sujet, puis il le fait de façon neutre et de façon très réfléchie. Donc ça vient vraiment comme centrer une opinion comme plus claire, plus...
Objective.
Objective, exactement. Objective, comme il dit. Et puis, ouais, c'est ça.
Attendez.
Ouais, et puis, alors, le côté aussi visuel de RAD, ça vient vraiment aider les jeunes qui sont beaucoup plus habitués à avoir un support visuel parce qu'on est dans une génération où est-ce qu'on est toujours avec nos téléphones cellulaires, qu'on a un ordinateur portable.
L'image est super importante.
L'image est vraiment importante aussi. Puis l'image dans RAD est vraiment bien présentée. On mentionne aussi les réseaux sociaux. Ça vient vraiment attirer le plus jeune public. Quand je parle de jeune public, je parle des adolescents et jeunes adultes. Pour les sensibiliser à un sujet aussi qui est d'actualité, la cancel culture, ça atteint beaucoup plus de jeunes, les générations futures qui veulent changer un peu le monde en définissant leurs propres limites, leurs propres règles. Et souvent, ces personnes-là utilisent beaucoup moins la radio. Et puis, c'est ce qui conclut, en fait, mon choix pour...
Oui, pour RAD.
Ouais, pour RAD.
Et de ton côté, Charles?
De mon côté, comme Zach, je pense que ma préférence penche du côté de ma deuxième production, c'est-à-dire l'émission française, Complément d'enquête, pour la simple et bonne raison qu'elle est plus complète, elle est plus précise. Bon, là, c'est sûr qu'on a un bon écart de temps, là. On a un choix de 6 minutes ou de 23 minutes, c'est sûr qu'on a plus le temps de rentrer d'informations dans celui de 23 minutes. Mais en termes de pertinence, je pense que si on avait voulu présenter le cancel culture plus précisément, mieux, en fait, plus pertinemment, je pense qu'on aurait choisi d'offrir d'autres informations que le fait que des personnalités publiques québécoises ont publié des livres là, quant au sujet. Sinon, je pense que c'est vraiment ce qui englobe. J'en ai parlé un peu plus tôt, mais je pense que au côté pertinence, c'est vraiment l'émission de 23 minutes qui est plus précise en donnant des exemples concrets, des situations. Puis, tu sais, comme, c'est rien de méchant, là, mais tu sais, qu'il y ait plus d'articles d'Eureka faits sur le sujet, c'est sûr que ça montre l'effet que ça l'a eu, comment que c'est plus popularisé, comment que c'est un phénomène de société en ce moment sur les médias. Mais ça montre pas en soi l'importance ou l'impact, à quel point on va chercher le monde là, avec ça. Là, donc,
Oui, ben c'est ça, c'est plus niché aussi avec dans les médias. Je pense qu'on parle d'un... Ils analysent les médias, exact. Finalement. Donc, c'est quasiment méta un peu. C'est les médias qui analysent les médias, puis toi, tu es en train d'analyser ça. mais sinon, on peut conclure avec votre question qui est justement, qu'est-ce que vous pensez personnellement de la cancel culture? Bon, évidemment, je vous ai senti un petit peu avoir une certaine subjectivité tout au long de notre conversation. On va quand même être bref parce que, on a déjà beaucoup parlé. On va se prendre un petit 2 minutes sur la question. Qu'est-ce que vous en pensez personnellement, tout en restant dans le respect, hein, parce que je sens que c'est un sujet qui vous anime.
Mais moi, personnellement, la cancel... La culture de l'annulation,
oui,
on va
disons
dire.
Disons ça.
Moi, en fait, je trouve que ça a ses côtés positifs et ça a aussi des côtés négatifs. Je parle surtout pour les célébrités font des actes sans vraiment réfléchir et puisque c'est tellement médiatisé que ça devient comme négatif et puis comme Sean l'a mentionné, c'est vraiment une atteinte un peu à la personnalité aussi, parce que des fois, c'est comme pas vraiment vrai, là, surtout avec la montée du wokisme, la communauté LGBTQ, ça vient encourager vraiment le phénomène aussi du wokisme en lien avec la cancel culture. Là. Je me rappelle avec J.K. Rowling, je pense qu'elle avait eu
L'auteur de Harry Potter.
L'auteur de Harry Potter, elle avait fait des propos, je pense, homophobes. Puis ça fait...
C'était plus, je pense, qu'elle supportait pas certaines choses. Exactement. Puis là, ça a eu l'effet.
C'est ça. Puis est-ce que c'est une autrice qui est connue?
Populaire, puis qu'elle a du succès, mais exactement. On vient y enlever ça.
Puis ça vient vraiment comme dénigrer la personne. Je trouve que c'est vraiment de valeur parce que chaque personne devrait avoir son opinion sur ça, puis pas parce que cette personne-là est plus très, très connue qu'on doit vraiment venir comme la baisser de l'échelle de popularité, puis de la dénigrer comme on l'a fait avec...
Avec d'autres. C'est sûr, c'est un débat. On parle beaucoup de la séparation de l'œuvre avec les inconduites, hein, parce qu'est-ce qu'on peut continuer d'aimer l'œuvre de quelqu'un, même si cette personne a des inconduites. Mais bref, je t'écoute aussi sur la question.
Moi, c'est un peu dans le même sens. Je trouve qu'il y a des côtés positifs dans le sens où, tu sais, c'est sûr que avec la justice ou certaines personnes qui ont été accusées d'actes d'inconduite sexuelle, qui ne sont pas réprimandées, je trouve ça dommage. Je trouve qu'il y a peut-être des certaines lacunes dans le système de justice qu'on connaît. Fait que d'un côté, c'est bon, mais d'un autre côté, avec la cancel culture, il n'y a aucun moyen de prouver que c'est vrai aussi. Puis, je pense qu'on peut parler un peu d'une certaine atteinte aux droits de l'homme, parce qu'un certain article propose que... toute personne a droit à l'innocence et est déclarée innocente jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à temps qu'on puisse la prouver devant un tribunal qu'elle est coupable. Cependant, on déclare le monde ici sur Internet, on déclare les gens, les présumés agresseurs, comme coupables avant même qu'il y ait eu un jury qui l'ait jugé, tu sais. Donc, je crois que là, c'est une certaine atteinte aux droits de l'homme, mais aussi, on peut aussi parler de liberté d'expression. On vient réprimander la liberté d'expression. Puis, j'ai envie de dire que dans des circonstances où la lignée principale de pensée n'est pas respectée, on vient pointer du doigt, mais là, je pense que c'est vraiment une atteinte, comme j'ai dit, à la liberté d'expression, puis ça n'a pas lieu d'être dans un pays démocratique et libre comme on l'est. Je pense que tout le monde devrait avoir droit à sa propre opinion, puis je pense qu'il faut juste savoir s'en servir, tu sais. Si on a des preuves comme quoi que telle personne a fait telle chose, tu sais, à la limite, c'est correct, tu sais. Si on sait qu'elle a eu des inconduites, elle a eu des choses inacceptables, tu sais, pas de problème, en voulant dire, tu sais, il y a lieu d'être, tu sais. Cependant, je pense qu'on parle aussi de problèmes à la justice sociale. Même si on lutte pour la justice sociale, je pense qu'il y a un effet revers qui s'amène à ça, au sens où c'est pas nécessairement tout le temps juste. Comme si je peux rajouter un petit complément d'information, j'ai vu en faisant quelques recherches qu'il y avait une liste qui avait été établie sur des présumés agresseurs, où des noms peuvent être mis là, puis on les considère comme des agresseurs, mais rien n'a été prouvé à leur sujet. Fait qu'on vient... On vient détruire, dans un certain sens, la réputation si devenue très publique. Puis, je trouve que c'est très dommage, dans ce sens-là, en voulant dire...
Oui, c'est un terrain glissant. Ça peut être
un vrai terrain glissant, exactement.
Genre, tu sais, Johnny Depp, là. Oui, tout le monde pensait que c'était Johnny Depp qui avait fait des actes d'inconduite avec Amber Heard. Puis ça s'est avéré que c'était... complètement le contraire.
En tout cas, on peut dire que la justice est prononcée. Exactement. De ce côté-là.
C'est ça.
Donc... Si il est si derrière lui, il n'a pas des squelettes dans le placard, mais ça, c'est l'avenir nous le dira.
Parce qu'il faut vraiment séparer la justice de l'opinion publique.
Oui.
Parce que ça vient vraiment jouer avec les décisions. Puis c'est souvent des décisions vraiment difficiles à faire pour la justice.
Oui.
Et c'est pas à l'opinion publique de définir la justice, mais bien à la justice de déclarer si la personne est coupable ou non. Puis après ça, si la personne est coupable, qu'on l'annule.
Mais je vais devoir vous arrêter là. Vous avez vraiment bien discuté de la question. Merci d'avoir été présent aujourd'hui.
Merci à vous. Merci à vous pour la session.